Les frères Karamazov, livre 8, chapitre 7, celui d'autrefois. Mitya s'approcha à grands pas de la table. « Messieurs, » commença-t-il à haute voix, mais en bégayant à chaque mot, « ce n'est rien, n'ayez pas peur, ce n'est rien !» dit-il en se tournant vers Grushenka, qui, penché du côté de Kalganov, se cramponnait à son bras. Je voyage aussi. Je m'en irai le matin venu. Messieurs, est-ce qu'un voyageur peut rester avec vous dans cette chambre jusqu'au matin seulement ? » Ces dernières paroles s'adressaient au personnage obèse, assis sur le canapé. Celui-ci retira gravement sa pipe de ses lèvres et dit d'un ton sévère « Pani, nous sommes ici en particulier. Il y a d'autres chambres. »
« C'est vous, Dmitri Fiodorovitch ?»
s'écria Kalganov.
« Prenez place, soyez le bienvenu. »«
Bonjour, ami cher et incomparable. Je vous ai toujours estimé, » répliqua Mitya avec un joyeux empressement en lui tendant la main par-dessus la table.
« Aïe, vous m'avez brisé les doigts !»
dit Kalganov en riant.
« C'est sa manière de serrer la main ?»
observa gaiement Grushenka avec un sourire timide. Elle avait compris, à l'air de Mitya, qu'il ne ferait pas de tapage, et l'observait avec une curiosité mêlée d'inquiétude. Quelque chose en lui la frappait, d'ailleurs. Elle ne s'attendait pas à une telle attitude de sa part.
« Bonjour, »
dit d'un ton doucereux le propriétaire foncier Maximov. Mitya se tourna vers lui.
« Bonjour, vous voilà aussi, ça me fait plaisir. Messieurs, messieurs, je... »
Il s'adressa de nouveau au pan à la pipe, le prenant pour le principal personnage.
« J'ai voulu passer mes dernières heures dans cette chambre, où j'ai adoré ma reine. Pardonnez-moi, Pani, je suis accouru et j'ai fait serment... Oh, n'ayez crainte, c'est ma dernière nuit. » « Buvons amicalement, Pani. On va nous servir du vin. J'ai apporté ceci. »
Il sortit sa liasse de billets.
« Je veux de la musique, du bruit, comme l'autre fois. Mais le verre inutile qui rampe à terre va disparaître. Je me rappellerai ce moment de joie dans ma dernière nuit. »
Il suffoquait. Il aurait voulu dire beaucoup de choses, mais ne proférait que de bizarres exclamations. Le pan impassible regardait tour à tour Mitya, sa liasse de billets et Grushenka. Il paraissait perplexe.
« Jezeli povolit Mosha Krolofa, »
commença-t-il.
Mais Grushenka l'interrompit. « Ce qu'ils m'agacent avec leur jargon !»«
Assieds-toi, Mitya. Qu'est-ce que tu racontes, toi aussi ?
Ne me fais pas peur, je t'en prie. Tu le promets. Oui, alors je suis contente de te voir. »
« Moi, te faire peur ?» s'écria Mitya en levant les bras.
« Oh, passez, passez, je ne suis pas un obstacle !»
Soudain, sans qu'on s'y attendît, il se laissa tomber sur une chaise et fondit en larmes, la tête tournée vers le mur et se cramponnant au dossier.
« Allons, ça recommence !»
dit Grushenka d'un ton de reproche.
« Il vient comme ça chez moi, il me tient des discours et je ne comprends rien à ce qu'il me dit. » Une fois, il s'est mis à pleurer. Voilà que ça recommence. Quelle honte ! Pourquoi pleures-tu ? S'il y avait de quoi encore ? »
ajouta-t-elle d'un air énigmatique en appuyant sur les derniers mots.
« Je ne pleure pas. Allons, bonjour. »
Il se retourna et se mit à rire. Pas de son rire saccadé habituel, mais d'un long rire contenu, nerveux, qui le secouait tout entier.
« Ça continue. Sois donc plus gai. Je suis très contente que tu sois venue, Mitya. Entends-tu ? Très contente. Je veux qu'il reste avec nous, »
dit-elle impérieusement en s'adressant au personnage qui occupait le canapé.
« Je le veux, et s'il s'en va, je m'en irai, »
ajouta-t-elle, les yeux étincelants.
« Les désirs de ma reine sont des ordres, »
déclara le pan en baisant la main de Grushenka.
« Je prie le pan de se joindre à nous, »
dit-il gracieusement à Mitya. Celui-ci se leva
dans l'intention de débiter une nouvelle tirade, mais il resta court et dit seulement « Buvons, panier !» Tout le monde éclata de rire. « Et moi qui croyais qu'il allait encore discourir !» fit Grushenka. « Tu entends, Mitya, reste tranquille. Tu as bien fait d'apporter du champagne. J'en boirai. Je ne puis souffrir les liqueurs. Mais tu as encore mieux fait d'être venu toi-même, car on s'ennuie ferme ici. Tu comptes faire la noce? Cache ton argent dans ta poche. Où as-tu trouvé cela ?» Les billets que Mitya tenait froissés dans sa main attiraient l'attention, surtout des Polonais. Il les fourra rapidement dans sa poche et rougit. À ce moment, le patron apporta sur un plateau une bouteille débouchée et des verres. Mitya saisit la bouteille, mais il était si confus qu'il ne sut qu'en faire. Ce fut Kalganov qui remplit les verres à sa place. « Encore une bouteille !» cria Mitya au patron, et oubliant de trinquer avec le pan qu'il avait si solennellement invité à boire, il vida son verre sans attendre. Sa physionomie changea aussitôt. De solennelle, de tragique, elle devint enfantine. Il parut s'humilier, s'abaisser. Il regardait tout le monde avec une joie timide, avec de petits rires nerveux, de l'air reconnaissant d'un petit chien rentré en grâce après une faute. Il semblait avoir tout oublié et riait tout le temps en regardant Grushenka dont il s'était rapproché. Puis il examina aussi les deux Polonais. Celui du canapé le frappa par son air digne, son accent et surtout sa pipe. « Eh bien, quoi, il fume la pipe, c'est parfait !» songea Mitya. Le visage un peu ratatiné du pan presque quadragénaire, son nez minuscule encadré par des moustaches cirées qui lui donnaient l'air impertinent, parurent tout naturels à Mitya. Même la méchante perruque, faite en Sibérie, qui lui couvrait bêtement les tempes, ne l'étonna guère. « Ça doit lui convenir !» se dit-il. L'autre pan, plus jeune, assis près du mur, regardait la compagnie d'un air provoquant, écoutait la conversation dans un silence dédaigneux. Il ne surprit Mitya que par sa taille, fort élevée, contrastant avec celle du pan assis sur le canapé. Il songea aussi que ce géant devait être l'ami et l'acolyte du pan à la pipe, quelque chose comme son garde du corps, et que le petit commandait sans doute au grand. Mais tout cela paraissait à Mitya naturel et indiscutable. Le petit chien n'avait plus l'ombre de jalousie. Sans avoir rien compris au ton énigmatique de Grushenka, il voyait qu'elle était gracieuse envers lui et qu'elle lui avait pardonné. Il la regardait boire en se pâmant d'aise. Le silence général le surprit pourtant, et il se mit à examiner la compagnie d'un air interrogateur. Qu'attendons-nous? Pourquoi restons-nous là à ne rien faire? Semblait dire son regard. Ce vieux radoteur nous fait bien rire, dit soudain Kalganov en désignant Maximov, comme s'il eût deviné la pensée de Mitya. Mitya les considéra l'un après l'autre, puis éclata de son rire bref et sec. Ah bah! Oui, figurez-vous qu'il prétend que tous nos cavaliers ont épousé, dans les années 20, des Polonaises. C'est absurde, n'est-ce pas? Des Polonaises? Reprit Mitya enchanté. Kalganov comprenait fort bien les relations de Mitya avec Grushenka. Il devinait celles du pan, mais cela ne l'intéressait guère. Maximov seul l'occupait. C'est par hasard qu'il était venu avec lui dans cette auberge où il avait fait la connaissance des Polonais. Il était allé une fois chez Grushenka, à qui il avait déplu. À présent, elle s'était montrée caressante envers lui, avant l'arrivée de Mitya, mais il demeurait insensible. Âgé de 20 ans, élégamment vêtu, Kalganov avait un gentil visage, de beaux cheveux blonds, de charmants yeux bleus à l'expression pensive, et parfois au-dessus de son âge, bien qu'il eût par moments des allures enfantines, ce qui ne le gênait nullement. En général, il était fort original et même capricieux, mais toujours câlin. Parfois, son visage prenait une expression concentrée. Il vous regardait et vous écoutait, tout en paraissant absorbé dans un rêve intérieur. Tantôt il faisait preuve de mollesse, d'indolence, tantôt il s'agitait pour la cause la plus futile. Figurez-vous que je le traîne après moi depuis 4 jours, poursuivit Kalganov en pesant un peu sur les mots, mais sans aucune fatuité. Depuis que votre frère l'a repoussé de la voiture, vous vous souvenez, je me suis alors intéressé à lui et l'ai emmené à la campagne. Mais il ne dit que des sottises à vous faire honte. Je le ramène. Pan Polskiev, panini vitial. Et dit des choses qui ne sont pas, déclara le pan à la pipe. Mais j'ai été marié à une Polonaise, répliqua en riant Maximov. Oui, mais avez-vous servi dans la cavalerie? C'est d'elle que vous parliez. Êtes-vous cavalier? Intervint Kalganov. Ah oui, est-il cavalier? Ha ha! Cria Mitya qui était tout oreille et fixait chaque interlocuteur comme s'il en attendait des merveilles. Non, voyez-vous, dit Maximov en se tournant vers lui. Je veux parler de ces panianki qui, dès qu'elles ont dansé une mazurka avec un de nos ulans, sautent sur ses genoux comme des chattes blanches sous les yeux et avec le consentement de père et mère. Le lendemain, le ulan va faire sa demande en mariage. Et le tour est joué. Pan la tchak, grommela le pan à la haute taille en croisant les jambes. Mitya ne remarqua que son énorme botte cirée, à la semelle épaisse et sale. D'ailleurs, les deux Polonais avaient une tenue plutôt malpropre. Bon, un misérable, pourquoi des injures? Dit Krushenka, irrité. Pani Agrippina, le pan n'a connu en Pologne que des filles de basse condition, et non des jeunes filles nobles. Moses Katorachovac, fit dédaigneusement le pan aux longues jambes. Encore? Laissez-le parler. Pourquoi empêcher les gens de parler? Il dit des choses amusantes, répliqua Grushenka. Je n'empêche personne, Pani, fit observer le pan à la perruque avec un regard expressif. Après quoi, il se remit à fumer. Kalganov s'échauffa de nouveau comme s'il s'agissait d'une affaire importante. Non, non, le pan a dit vrai. Maximov n'est pas allé en Pologne. Comment peut-il en parler? Vous ne vous êtes pas marié en Pologne. Non, c'est dans la province de Smolensk. Ma future y avait d'abord été amenée par un Ulan, escorté de sa mère, d'une tante et d'une parente, avec un grand-fils, des Polonais pur sang. Et il me l'a cédé. C'était un lieutenant, un fort gentil garçon. Il voulait d'abord l'épouser, mais il y renonça, car elle était boiteuse. Alors vous avez épousé une boiteuse? S'exclama Kalganov. Oui. Tous deux me dissimulèrent la chose. Je croyais qu'elle sautillait et que c'était de joie. « La joie de vous épouser !» cria Kalganov d'une voix sonore. « Parfaitement, mais c'était pour une cause toute différente. Une fois mariée, le même soir, elle m'avoua tout et me demanda pardon. En sautant une mare dans son enfance, elle s'était estropiée. Kalganov éclata d'un rire enfantin et se laissa tomber sur le canapé. Krushenka riait aussi. Mitya était au comble du bonheur. « Il ne ment plus maintenant, » dit Kalganov à Mitya. « Il a été marié 2 fois. C'est de sa première femme qu'il parle. La seconde s'est enfuie, et vit encore, le saviez-vous? »« Vraiment ?» dit Mitya en se tournant vers Maximov d'un air fort surpris. « Oui, j'ai eu des agréments. » Elle s'est sauvée avec un moussier. Elle avait au préalable fait transférer mon bien à son nom. « Tu es un homme instruit, » me dit-elle. « Tu trouveras toujours de quoi manger. » Puis elle m'a planté là. Un respectable ecclésiastique m'a dit un jour à ce sujet « Si ta première femme boitait, la seconde avait le pied par trop léger. »« Savez-vous, » dit vivement Kalganov, « que s'il ment, c'est uniquement pour faire plaisir. Il n'y a là nulle bassesse. Il m'arrive par instant de l'aimer. Il est vif, mais avec franchise. Qu'en pensez-vous? Un autre s'avilit par intérêt, mais lui, c'est par naturel. Par exemple, il prétend que Gogol l'a mis en scène dans Les âmes mortes. Vous vous rappelez, on y voit le propriétaire foncier, Maximov, fouetté par Nozdryov, qui est poursuivi pour offense personnelle au propriétaire Maximov avec des verges en état d'ivresse. Il prétend que c'est de lui qu'il s'agit et qu'on l'a fouetté. Est-ce possible? Tchitchikov voyageait vers 1830 au plus tard, de sorte que les dates ne concordent pas. Il n'a pu être fouetté à cette époque. L'excitation de Kalganov, difficile à expliquer, n'en était pas moins sincère. Mitya prenait franchement son parti. « Après tout, si, on l'a fouetté, » dit-il en riant. « Ce n'est pas qu'on m'ait fouetté, mais comme ça, » intervint Maximov. « Qu'entends-tu par « comme ça » As-tu été fouetté, oui ou non ?»« Ktora godzina pani ?» demanda d'un air d'ennui le paon à la pipe au paon aux longues jambes. Celui-ci haussa les épaules, aucun d'eux n'avait de montre. « Laissez donc parler les autres. Si vous vous ennuyez, ce n'est pas une raison pour imposer silence à tout le monde, » fit Grushenka d'un air agressif. Mitya commençait à comprendre. Le paon répondit cette fois avec une irritation visible. « Pani, janik ni movi prexvik, nik ni povjidjilem. »« C'est bien, continue » cria-t-elle à Maximov. « Pourquoi vous taisez-vous tous ?»
Mais il n'y a rien à raconter. Ce sont des bêtises, reprit Maximov avec satisfaction et en minaudant un peu.
Dans Gogol, tout cela est allégorique, car ces noms sont tous symboliques. Nozdryov ne s'appelait pas Nozdryov, mais Nosov. Quant à Kouchinikov, ça ne ressemble pas du tout, car il avait nom Ksvorniez. Fenardi s'appelait bien ainsi, seulement ce n'était pas un Italien, mais un Russe. Petrov. Mamselle Fenardi était jolie dans son maillot, sa jupe de paillettes courtes, et elle a bien pirouetté, mais pas 4 heures, seulement 4 minutes, et enchanté tout le monde.
« Mais pourquoi t'a-t-on fouetté ? » hurla Kalganov.
« À cause de Piron, » répondit Maximov.
« Quel Piron ? » dit Mitya. « Mais le célèbre écrivain français, Piron. » Nous avions bu, en nombreuses compagnies, dans un cabaret, à cette même foire. On m'avait invité, et je me mis à citer des épigrammes. « C'est toi, Boileau, quel drôle de costume !» Boileau répond qu'il va au bal masqué, c'est-à-dire au bain, et ils prirent cela pour eux. Et moi, d'en citer vite une autre, mordante et bien connue des gens instruits. « Tu es Sapho et moi, Faon, j'en conviens. » Mais à mon grand chagrin, de la mer, tu ignores le chemin. » Ils s'offensèrent encore davantage et me dirent des sottises. Par malheur, pensant arranger les choses, je leur contai comment Piron, qui ne fut pas reçu à l'académie, fit graver sur son tombeau cette épitaphe pour se venger. « Si j'y Piron, qui ne fut rien, pas même académicien. » C'est alors qu'ils me fustigèrent.
« Mais pourquoi ? Pourquoi ?»
À cause de mon savoir, il y a bien des motifs pour lesquels on peut fouetter un homme, conclut sentencieusement Maximov.
Assez, c'est idiot, j'en ai plein le dos. Moi qui croyais que ce serait drôle, trancha Grushenka.
Mitya s'effara et cessa de rire. Le paon aux longues jambes se leva et se mit à marcher de long en large, de l'air arrogant d'un homme qui s'ennuie dans une compagnie qui n'est pas la sienne.
« Comme il marche !»
fit Grushenka d'un air méprisant. Mitya s'inquiéta. De plus, il avait remarqué que le paon à la pipe le regardait avec irritation.
« Pani ! » s'écria-t-il. « Buvons !»
Il invita aussi l'autre qui se promenait et remplit 3 verres de champagne.
« À la Pologne, panovi, je bois à votre Pologne. « Bas do mito milo, pani vispijem !»
dit le paon à la pipe d'un air important, mais affable. « Et l'autre paon aussi, comment s'appelle-t-il? Prenez un verre, jasni vieille movni. »«
Pan Brufleski, » souffla l'autre.
Pan Brufleski s'approcha de la table en se dandinant.
« À la Pologne, panovi, hurrah !»
cria Mitya en levant son verre. Ils trinquèrent.
Mitya remplit de nouveau les trois verres. « Maintenant, à la Russie, Panovi, et soyons frères. »«
Verse-nous-en aussi, » dit Grushenka. « Je veux boire à la Russie. »«
Moi aussi, » fit Kalganov.
« Et moi donc, » appuya Maximov, « je boirai à la vieille petite grand-maman. »«
Nous allons tous boire à sa santé, » cria Mitya. « Patron, une bouteille. »
On apporta les trois bouteilles qui restaient.
« À la Russie! Hurrah !»
Tous burent, sauf les Panovi. Grushenka vida son verre d'un trait.
« Eh bien, Panovi, c'est ainsi que vous êtes ?»
Pan Bulfrinsky prit son verre, l'éleva et dit d'une voix aiguë.
« À la Russie, dans ses limites de 1772. »«
Oh, to barstopikni !»
approuva l'autre Pan. Tous deux vidèrent leur verre.
« Vous êtes des imbéciles, Panovi !»
dit brusquement Mitya.
« Pani !»
s'exclamèrent les deux Polonais en se dressant comme des coqs.
Pan Wolfreski surtout était indigné.
« Alenie noisno mis salbos dosvego kraju !»«
Silence ! Pas de querelle !»
cria impérieusement Grushenka en tapant du pied. Elle avait le visage enflammé, les yeux étincelants. L'effet du vin se faisait sentir. Mitya prit peur.
Panovi, pardonnez, c'est ma faute. Pan Bouvski, je ne le ferai plus.
Mais tais-toi donc, assieds-toi, imbécile,
ordonna Grushenka. Tout le monde s'assit et se tint quoi.
Messieurs, je suis cause de tout,
reprit Mitya, qui n'avait rien compris à la sortie de Grushenka.
Eh bien, qu'allons-nous faire pour nous égayer?
« En effet, on s'embête ici, » dit nonchalamment Kalganov.
« Si l'on jouait aux cartes comme tout à l'heure.
»« Aux cartes ? Bonne idée, » approuva Mitya.
« Si les Panovi y consentent. »«
Pose nos panis, »
répondit de mauvaise grâce le Pan à la pipe.
« C'est vrai, » appuya Pan Vobreski.
« Quel triste convive !» s'exclama Grushenka dépité.
Ils distillent l'ennui et veulent l'imposer aux autres.
Avant ton arrivée, Mitya, ils n'ont pas soufflé mot, ils faisaient les fiers.
« Ma déesse, » répliqua le Pan à la pipe, « Como visto siestani, vidz nielaski gestem smuti, gestem gotov, »
dit-il à Mitya.
« Commence, Pani, »
dit celui-ci en détachant de sa liasse deux billets de 100 roubles qu'il mit sur la table.
« Je veux te faire gagner beaucoup d'argent. Prends les cartes et tiens la banque. »«
Il faut jouer avec les cartes du patron, »
dit gravement le petit Pan.
« Tonachlisiplisposob, »
approuva Pan Vuversky.
« Les cartes du patron, soit. C'est très bien, Panovi. Des cartes. »
Le patron apporta un jeu de cartes cachetées et annonça à Mitya que les filles se rassemblaient. Que les Juifs allaient bientôt venir, mais que la charrette aux provisions n'était pas encore arrivée. Mitya courut aussitôt dans la chambre voisine pour donner des ordres. Il n'y avait encore que trois filles, et Marie n'était pas encore là. Il ne savait trop que faire, et prescrivit seulement de distribuer aux filles les friandises et les bonbons de la caisse.
« Et de la vodka pour André, » ajouta-t-il. « Je l'ai offensé. »
C'est alors que Maximov, qui l'avait suivi, le toucha à l'épaule en chuchotant.
« Donnez-moi 5 roubles, je voudrais jouer aussi.
»« Parfaitement, en voilà 10. Si tu perds, reviens me trouver. »«
Très bien, » murmura tout joyeux Maximov, qui rentra au salon. Mitya revint peu après et s'excusa de s'être fait attendre. Les Panovi avaient déjà pris place et décacheté le jeu. L'air beaucoup plus aimable et presque gracieux. Le petit Pan fumait une nouvelle pipe et se préparait à battre les cartes. Son visage avait quelque chose de solennel.
« Na mieszka Panovi !»
s'écria Pan Wurwleski.
« Je ne veux plus jouer !»
déclara Kalganov. « J'ai déjà perdu 50 roubles tout à l'heure. »
« Le Pan a été malheureux, mais la chance peut tourner !»
insinua le Pan à la pipe.
« Combien y a-t-il en banque ?» demanda Mitya. « Slusham pan du mosesto, mosetvéché.
autant que tu voudras ponter. »
$1 million,
dit Mitya en riant. Le capitaine a peut-être entendu parler de Pan Podziowski.
Quel Podziowski?
À Varsovie, la banque tient tous les enjeux. Sur 20, Podziowski. Il voit des milliers de pièces d'or, il ponte. Le banquier dit,
Pani Podziowski, joues-tu avec de l'or ou naonor?
Naonor, pani, dit Podziowski.
Tant mieux.
Le banquier coupe, Podziowski ramasse les pièces d'or.
Attends, pani, dit le banquier.
Il ouvre un tiroir et lui donne 1 million.
Prends, voilà ton compte.
La banque était 1 million.
Je l'ignorais, dit Podziowski.
Pani Podziowski, fit le banquier. Nous avons joué tous les deux naonor.
Podziowski prit 1 million.
Ce n'est pas vrai, dit Kalganov.
Pani Kalganov, slajetnov kompanich takmovic nispristoy.
Comme si un joueur polonais allait donner comme ça 1 million, s'exclama Mitya. Mais il se reprit aussitôt.
Pardon, pani, j'ai de nouveau tort, certainement. Il donnera 1 million naonor, l'honneur polonais.
Voici 10 roubles sur le valet.
Et moi, 1 rouble sur la dame de cœur, la jolie petite Panianka,
déclara Maximov. Et comme pour la dissimuler au regard, il s'approcha de la table et fit dessus un signe de croix.
Mitya gagna, le rouble aussi.
« Je double !» cria Mitya.
« Et moi, encore un petit rouble, un simple petit rouble !»
murmura béatement Maximov, enchanté d'avoir gagné.
« Perdu !» cria Mitya.
« Je double !» Il perdit encore.
« Arrêtez-vous !» dit tout à coup Kalganov.
Mitya doublait toujours sa mise, mais perdait à chaque coup, et les petits roubles gagnaient toujours.
« Tu as perdu 200 roubles, pani. Est-ce que tu pontes encore ?»
demanda le pan à la pipe.
« Comment, déjà 200 ?
Soit, encore 200 !» Mitya allait poser les billets sur la dame lorsque Kalganov la couvrit de sa main.
« Assez ! »
cria-t-il de sa voix sonore.
« Qu'avez-vous ? » fit Mitya. « Assez, je ne veux pas. Vous ne jouerez plus.
Pourquoi ?
Parce que. Cessez, allez-vous-en. Je ne vous laisserai plus jouer. »
Mitya le regardait avec étonnement.
« Laisse, Mitya, il a peut-être raison. Tu as déjà beaucoup perdu. »
proféra Grushenka d'un ton singulier. Les deux panovi se levèrent d'un air très offensé.
« Chartoshesk, pani !»
fit le plus petit en fixant sévèrement Kalganov.
« Chak pansmich torobik !»
s'emporta à son tour Vulensky.
« Pas de cri, pas de cri ! Ah, les coqs d'Inde !» s'écria Grushenka.
Mitya les regardait tous à tour de rôle. Il lut sur le visage de Grushenka une expression qui le frappa, en même temps qu'une idée nouvelle et étrange lui venait à l'esprit.
« Pani Agrippina !»
commença le petit pan rouge de colère. Tout à coup, Mitya s'approcha de lui et le frappa à l'épaule.
« Jasni vieillemontni !»
Deux mots.
Xegoshek, pani.
Passons dans la pièce voisine. Je veux te dire 2 mots qui te feront plaisir. Le petit pan s'étonna et regarda Mitya avec appréhension. Mais il consentit aussitôt, à condition que pan Vlevleski l'accompagnerait.
C'est ton garde du corps?
Soit, qu'il vienne aussi. Sa présence est d'ailleurs nécessaire.
Allons, panovi.
Où allez-vous? Demanda Grushenka inquiète.
Nous reviendrons dans un instant, répondit Mitya.
Son visage respirait la résolution et le courage. Il avait un tout autre air qu'une heure auparavant à son arrivée. Il conduisit les panovi non dans la pièce à droite où se rassemblait le cœur, mais dans une chambre à coucher, encombrée de malles, de coffres, avec 2 grands lits et une montagne d'oreillers. Dans un coin, une bougie brûlait sur une petite table. Le pan et Mitya s'y installèrent vis-à-vis l'un de l'autre, pan Brouvleski à côté d'eux, les mains derrière le dos. Les Polonais avaient l'air sévères, mais intrigués.
« Ksmegmoki panuchluik !» murmura le plus petit.
« Je serai bref, pani. Voici de l'argent. » Il exhiba sa liasse.
Si tu veux 3000 roubles, prends-les et va-t'en. »
Le paon le regardait attentivement.
« Tchitsias, pani ?»
Il échangea un coup d'œil avec Voulinski.
« 3000, panovi, 3000. Écoute, je vois que tu es un homme avisé. Prends 3000 roubles et va-t'en au diable avec Voulinski, entends-tu ? Mais tout de suite, à l'instant même, et pour toujours, tu sortiras par cette porte. Je te porterai ton pardessus ou ta pelisse. On attellera pour toi une troïka. Et bonsoir, hein ?»
Mitya attendait la réponse avec assurance. Le visage du paon prit une expression des plus décidées.
« Et les roubles ?»«
Voici, pani, 500 roubles d'art, tout de suite, et 2500 demain à la ville. Je jure sur l'honneur que tu les auras. Fallut-il les prendre sous terre ?»
Les Polonais échangèrent un nouveau regard. Le visage du plus petit devint hostile.
« 700 tout de suite !»
ajouta Mitya, sentant que l'affaire tournait mal.
« Eh bien, pani, tu ne me crois pas ? Je ne puis te donner les 3000 roubles à la fois. Tu reviendrais demain auprès d'elle. D'ailleurs, je ne les ai pas sur moi. Ils sont en ville. »
balbutia-t-il, perdant courage à chaque mot.
« Ma parole, dans une cachette !»
Un vif sentiment d'amour-propre brilla sur le visage du petit paon.
« Si ce n'est pas sexego ?»
demanda-t-il ironiquement.
« Fi, quelle honte !»
Il cracha de dégoût. Paon Wróblewski l'imita.
« Tu craches, pani, » fit Mitya, désolé de son échec, « parce que tu penses tirer davantage de Grushenka. Vous êtes des idiots, tous les deux. « J'estem dos vego dostnieti, »
dit le petit paon, rouge comme une écrevisse. Au comble de l'indignation, il sortit de la chambre avec Wróblewski qui se dandinait. Mitya les suivit tout confus. Il craignait Grushenka, pressentant que le paon allait se perdre. C'est ce qui arriva. D'un air théâtral, il se campa devant Grushenka et répéta.
« Pani Agrippina, j'estem dos vego doctienti. »
Mais Grushenka, comme piqué au vif, perdit patience et, rouge de colère,
« Parle russe, tu m'embêtes avec ton polonais. Tu parlais russe autrefois. L'aurais-tu oublié en 5 ans ?»« Pani Agrippina, je m'appelle Agrafena. Je suis Grushenka. Parle russe, si tu veux que je t'écoute. »
Le paon, suffoqué, bredouilla avec emphase en écorchant les mots.
« Pani Agrafena, je suis venu pour oublier le passé et tout pardonner jusqu'à ce jour. »« Comment pardonner ? C'est pour me pardonner que tu es venu ?»
l'interrompit Grushenka en se levant.
« Oui, pani, car j'ai le cœur généreux. Mes chapitem flidoni à la vue de tes amants. Paon Mitya m'a offert 3000 roubles pour que je m'en aille. Je lui ai craché à la figure. »« Comment ? Il t'offrait de l'argent pour moi ? C'est vrai, Mitya ? Tu as osé ? Suis-je donc à vendre ?» « Pani, pani !» fit Mitya. « Elle est pure et je n'ai jamais été son amant. Tu as menti. Tu as le front de me défendre devant lui. Ce n'est pas par vertu que je suis restée pure, ni par crainte de Kuzma. C'est pour avoir le droit de traiter un jour cet homme de misérable. A-t-il vraiment refusé ton argent ?»
Au contraire, il l'acceptait. Seulement, il voulait les 3000 roubles tout de suite et je ne lui donnais que 700 roubles d'art.
« C'est clair. Il a appris que j'ai de l'argent. Voilà pourquoi il veut m'épouser.
Pani Agrippina, je suis un chevalier, un slakchik polonais et non un laddak.
Je suis venu pour t'épouser, mais je ne trouve plus la même pani. Celle d'aujourd'hui est upartie et effrontée. Retourne d'où tu viens. Je veux dire qu'on te chasse d'ici. Sotte que j'étais de me tourmenter pendant 5 ans. Mais ce n'était pas pour lui que je me tourmentais. C'était ma rancune que je chérissais. D'ailleurs, mon amant n'était pas comme ça. On dirait son père. Où t'es-tu commandé une perruque ? L'autre riait, chantait, c'était un faucon. Tu n'es qu'une poule mouillée. Et moi qui ai passé 5 ans dans les larmes, quelle sotte créature j'étais !
Elle retomba sur le fauteuil et cacha son visage dans ses mains. À ce moment, dans la salle voisine, le chœur des filles, enfin rassemblées, entonna une chanson de danse hardie.
« Quelle abomination !» s'exclama Paon Wróblewski. « Patron, chasse-moi ces effrontés !»
Devinant au cri qu'on se querellait, le patron, qui guettait depuis longtemps à la porte, entra aussitôt.
« Qu'est-ce que tu as à brailler ? » demanda-t-il à Wobleski. « Espèce d'animal !»«
Animal ? Avec quelle carte jouais-tu tout à l'heure ? Je t'ai donné un jeu tout neuf, qu'en as-tu fait ? Tu as employé des cartes truquées. Ça pourrait te mener en Sibérie, sais-tu ? Car cela vaut la fausse monnaie. »
Il alla tout droit au canapé, mit la main entre le dossier et un coussin, en retira le jeu cacheté.
« Le voilà, mon jeu, intact !»
Il l'éleva en l'air et le montra aux assistants.
« Je l'ai vu opérer et substituer ses cartes aux miennes. Tu es un coquin et non un paon. »
« Et moi, j'ai vu l'autre paon tricher deux fois !» dit Kalganov.
Krushenka joignit les mains en rougissant.
« Seigneur, quel homme est-il devenu ? Quelle honte, quelle honte !»«
Je m'en doutais, » fit Mitya.
Alors Pan Wombreski, confus et exaspéré, cria à Grushenka en la menaçant du poing.
« Putain !»
Mitya s'était déjà jeté sur lui. Il le saisit à bras-le-corps, le souleva, le porta en un clin d'œil dans la chambre où ils étaient déjà entrés.
« Je l'ai déposé sur le plancher, » annonça-t-il en rentrant essoufflé. « Il se débat, la canaille, mais il ne reviendra pas. »
Il ferma un battant de la porte et, tenant l'autre ouvert, il cria au petit paon.
« Jasny Vyadmovny, si vous voulez le suivre, je vous en prie. »«
Dmitri Fyodorovitch, » dit Trifon Borisitch, « reprends-leur donc ton argent. C'est comme s'ils t'avaient volé. »«
Moi, je leur fais cadeau de mes 50 roubles. » déclara Kalganov.
« Et moi de mes 200, que ça leur serve de consolation. »«
Bravo, Mitya, brave cœur !» cria Grushenka d'un ton où perçait une vive irritation.
Le petit paon, rouge de colère, mais qui n'avait rien perdu de sa dignité, se dirigea vers la porte. Tout à coup, il s'arrêta et dit à Grushenka
« Pani, Jezilitchek poste zamno, idzmid chelini bishwestrovna. »
Suffoquant d'indignation et d'amour-propre blessé, il sortit d'un pas grave. Sa vanité était extrême. Même après ce qui s'était passé, il espérait encore que la panie le suivrait.
Mitya ferma la porte. « Enfermez-les à clé !» dit Kalganov.
Mais la serrure grinça de leur côté. Ils s'étaient enfermés eux-mêmes.
« Parfait !» cria Grushenka impitoyable. « Ils ne l'ont pas volé !»
Chapitre 8. Délire. Alors commença presque une orgie, une fête à tout casser. Grushenka, la première, demanda à boire.
« Je veux m'enivrer comme l'autre fois. Tu te souviens, Mitya, lorsque nous fîmes connaissance ?»
Mitya délirait presque. Il pressentait son bonheur. D'ailleurs, Grushenka le renvoyait à chaque instant.
« Va t'amuser, dis-leur de danser, de se divertir, comme alors. »
Elle était surexcitée. Le chœur se rassemblait dans la pièce voisine. Celle où il se tenait était exiguë, séparée en deux par un rideau d'indienne. Derrière, un immense lit avec un édredon et une montagne d'oreillers. Toutes les pièces d'apparat de cette maison possédaient un lit. Grushenka s'installa à la porte. C'est de là qu'elle regardait le chœur et les danses lors de leur première fête. Les mêmes filles se trouvaient là. Les Juifs, avec leurs violons et leurs sitars, étaient arrivés, ainsi que la fameuse charrette aux provisions. Mitya se démenait parmi tout ce monde. Des hommes et des femmes survenaient, qui s'étaient réveillés et flairaient un régal monstre, comme l'autre fois. Mitya saluait et embrassait les connaissances, versait à boire à tout venant. Seules les filles appréciaient le champagne, les gars préféraient le rhum et le cognac, surtout le punch. Mitya ordonna de faire du chocolat pour les filles et de tenir bouillant toute la nuit 3 samovars pour offrir le thé et le punch à tous ceux qui en voudraient. Bref, ce fut une ribote extravagante. Mitya se sentait là dans son élément et s'animait à mesure que le désordre augmentait. Si un de ses invités lui avait alors demandé de l'argent, il eût sorti sa liasse et distribué à droite et à gauche sans compter. Voilà sans doute pourquoi le patron Typhon Borisitch,
qui avait renoncé à se coucher, ne le quittait presque pas. Il ne buvait guère, un verre de punch en tout, veillant soigneusement, à sa façon, aux intérêts de Mitya. Quand il le fallait, il l'arrêtait, câlin et obséquieux, et le sermonnait, l'empêchant de distribuer, comme alors, au croquant, des cigares, du vin du Rhin et, Dieu préserve, de l'argent. Il s'indignait de voir les filles croquer des bonbons, siroter des liqueurs. « Elles sont pleines de poux, Dmitri Fiodorovitch. Si je leur flanquais mon pied quelque part, ce serait encore leur faire honneur. » Mitya se rappela André et lui fit porter du punch. « Je l'ai offensé tout à l'heure, » répétait-il d'une voix attendrie. Kalganov refusa d'abord de boire, et le cœur lui déplut beaucoup, mais après avoir absorbé deux verres de champagne, il devint fort gai et trouva tout parfait, les chants comme la musique. Maximov, béat et gris, étaient collés à ses semelles. Krushenka, à qui le vin montait à la tête, désignait Kalganov à Mitya. « Quel gentil garçon !» Et Mitya courait les embrasser tous les deux. Il pressentait bien des choses. Elle ne lui avait encore rien dit de pareil et retardait le moment des aveux. Parfois seulement, elle lui jetait un regard ardent. Tout à coup, elle le prit par la main, le fit asseoir à côté d'elle. « Comment es-tu entré tout à l'heure? J'ai eu si peur. Tu voulais me céder à lui, hein? Est-ce vrai ?»«
Je ne voulais pas troubler ton bonheur. »
Mais elle ne l'écoutait pas. « Eh bien va, amuse-toi. Ne pleure pas, je t'appellerai de nouveau. » Il la quitta. Elle se remit à écouter les chansons, à regarder les danses, tout en le suivant des yeux. Au bout d'un quart d'heure, elle le rappela. « Mets-toi là, raconte-moi comment tu as appris mon départ. Qui t'en a informé le premier ?» Mitya entama un récit incohérent. Parfois, il fronçait les sourcils et s'arrêtait. « Qu'as-tu ? » lui demandait-elle. « Rien, j'ai laissé là-bas un malade. Pour qu'il guérisse, pour savoir qu'il guérira, je donnerai 10 ans de ma vie. »«
Laisse-le tranquille, ton malade. Alors, tu voulais te tuer demain, Nigo ?
Pourquoi ? J'aime les écervelés comme toi, » murmura-t-elle, la voix un peu pâteuse.
« Alors tu es prêt à tout pour moi, hein ? Et tu voulais vraiment en finir demain ?
Attends, je te dirai peut-être un gentil petit mot. »
« Pas aujourd'hui, demain. Tu préférerais aujourd'hui ?
Non, je ne veux pas. Va t'amuser. » Une fois pourtant, elle l'appela d'un air soucieux.
« Pourquoi es-tu triste ? Car tu es triste, je le vois, » ajouta-t-elle, les yeux dans les siens. « Tu as beau embrasser les moujiques, te démener, je m'en aperçois. Puisque je suis gaie, sois-le aussi. J'aime quelqu'un ici. Devine qui ?
Regarde, il s'est endormi, le pauvre, il est gris. » Elle parlait de Kalganov qui sommeillait sur le canapé, en proie aux fumées de l'ivresse et plus encore à une angoisse indéfinissable. Les chansons des filles, qui, à mesure qu'elles buvaient, devenaient par trop lascives et effrontées, avaient fini par le dégoûter. De même les danses. Deux filles, déguisées en ours, étaient montrée par Stépanide, une gaillarde armée d'un bâton.
« Hardi, Marie » criait-elle. « Sinon, gare !»
Finalement, les ours roulèrent sur le plancher d'une façon indécente, aux éclats de rire d'un public grossier.
« Qu'il s'amuse ! Qu'il s'amuse !» dit sentencieusement Grushenka d'un air de béatitude. « C'est leur jour. Pourquoi ne se divertiraient-ils pas ?»
Kalganov regardait d'un air dégoûté.
« Comme ces mœurs populaires sont basses !»
déclara-t-il en s'écartant. Il fut choqué surtout par une chanson nouvelle avec un refrain gai où un seigneur en voyage questionnait les filles. Le seigneur demanda aux filles « M'aimez-vous ? M'aimez-vous, les filles ?» Mais celles-ci trouvent qu'on ne peut l'aimer.
« Le seigneur me rossera, moi je ne l'aimerai pas !»
Puis ce fut le tour d'un tzigane qui n'est pas plus heureux.
« Le tzigane sera un voleur, moi je verserai des pleurs. »
D'autres personnages défilent, posant la même question, jusqu'à un soldat, repoussé avec mépris.
« Le
Le soldat portera le sac. Moi, derrière lui, je... »
suivait un vers des plus cyniques, chanté ouvertement et qui faisait fureur parmi les auditeurs. On finissait par le marchand.
Le marchand demanda aux filles « M'aimez-vous, m'aimez-vous, les filles ?»
Elles l'aiment beaucoup, car « Le marchand trafiquera, moi je serai la maîtresse. » Kalganov se fâcha.
« Mais c'est une chanson toute récente, qui diantre la leur a apprise? Il n'y manque qu'un juif ou un entrepreneur de chemin de fer. Ils l'eussent emporté sur tous les autres. »
Presque offensé, il déclara qu'il s'ennuyait, s'assit sur le canapé et s'assoupit. Son charmant visage, un peu pâli, reposait sur le coussin.
« Regarde comme il est gentil !» dit Grushenka à Mitya. « Je lui ai passé la main dans les cheveux, on dirait du lin. »
Elle se pencha sur lui avec attendrissement et le baisa au front. Kalganov ouvrit aussitôt les yeux, la regarda, se leva, demanda d'un air préoccupé « Où est Maximov ?»«
Voilà qui il lui faut !» dit Grushenka en riant. « Reste avec moi une minute, Mitya. Va lui chercher son Maximov !»
Celui-ci ne quittait pas les filles, sauf pour aller se verser des liqueurs. Il avait bu 2 tasses de chocolat. Il accourut, le nez écarlate, les yeux humides et doux, et déclara qu'il allait danser la sabotière.
« Dans mon enfance, on m'a enseigné ces danses mondaines. »« Suis-le, Mitya, je le regarderai danser d'ici. »
« Moi aussi, je vais le regarder !» s'exclama Kalganov, déclinant naïvement l'invitation de Grushenka à rester avec elle. Et tous allèrent voir. Maximov dansa, en effet, mais n'eut guère de succès, sauf auprès de Mitya. Sa danse consistait à sautiller avec force contorsion les semelles en l'air. À chaque saut, il frappait sa semelle de la main. Cela déplut à Kalganov, mais Mitya embrassa le danseur.
« Merci, tu dois être fatigué. Veux-tu des bonbons? Un cigare, peut-être? »
« Une cigarette. »
« Veux-tu boire?
J'ai pris des liqueurs. N'avez-vous pas des bonbons au chocolat? »
« Il y en a un monceau sur la table. Choisis, mon ange. »
« Non, j'en voudrais à la vanille. Pour les vieillards.
» Non, frère, il n'y en a pas comme ça.
« Écoutez, fit le vieux en se penchant à l'oreille de Mitya. « Cette fille-là, Marie, je voudrais bien faire sa connaissance grâce à votre bonté. »«
Voyez-vous ça? Tu veux rire, camarade ?»«
Je ne fais de mal à personne, »
murmura piteusement Maximov.
« Ça va bien ici, camarade. On se contente de chanter et de danser. Après tout, si le cœur t'en dit, en attendant, régale-toi, bois, amuse-toi. » As-tu besoin d'argent ? »
Après, peut-être, avoua Maximov en souriant.
Bien, bien.
Mitya avait la tête en feu. Il sortit sur la galerie qui entourait une partie du bâtiment. L'air frais lui fit du bien. Seul, dans l'obscurité, il se prit la tête à deux mains. Ses idées éparses se groupèrent soudain, et tout s'éclaira d'une terrible lumière.
Si je dois me tuer, « c'est maintenant ou jamais, » songea-t-il. « Prendre un pistolet et en finir dans ce coin sombre. »
Il demeura près d'une minute indécis. En venant à Mokroyé, il avait sur la conscience la honte, le vol commis, le sang versé. Néanmoins, il se sentait plus à l'aise. Tout était fini. Grushenka, cédée à un autre, n'existait plus pour lui. Sa décision avait été facile à prendre. Elle paraissait du moins inévitable, car pourquoi eût-il vécu désormais? Mais la situation n'était plus la même. Ce fantôme terrible, cet homme fatal, l'amant d'autrefois, avait disparu sans laisser de traces. L'apparition redoutable devenait un fantoche grotesque qu'on enfermait à clé. Grushenka avait honte, et il devinait à ses yeux qui elle aimait. Il suffisait maintenant de vivre. Et c'était impossible, oh malédiction. Seigneur, priait-il mentalement, ressuscite celui qui gît près de la palissade. Éloigne de moi cet amer calice, car tu as fait des miracles pour des pécheurs comme moi.
Et si le vieillard vit encore? Oh, alors, je laverai la honte qui pèse sur moi. Je restituerai l'argent dérobé, je le prendrai sous terre. L'infamie n'aura laissé de traces que dans mon cœur, pour toujours. Mais non, ce sont des rêves impossibles. Oh, malédiction! Un rayon d'espoir lui apparaissait pourtant dans les ténèbres. Il courut dans la chambre vers elle, vers sa reine pour l'éternité. Une heure, une minute de son amour ne valent-elles pas le reste de la vie, fût-ce dans les tortures de la honte? La voir, l'entendre, ne penser à rien, oublier tout, au moins pour cette nuit, pour une heure, pour un instant. En rentrant, il rencontra le patron qui lui parut morne et soucieux. « Eh bien, Tryphon, tu me cherchais ?» Le patron parut gêné. « Mais non, pourquoi vous chercherais-je? Où étiez-vous ? » « Que signifie cet air maussade? Serais-tu fâché ? » ?»« Attends, tu vas pouvoir te coucher. »« Quelle heure est-il ?»«
Il doit être 3 heures passées. » »«
Nous finissons, nous finissons. » »« Mais ça ne fait rien, amusez-vous tant que vous voudrez. » »«
Qu'est-ce qu'il lui prend ?» songea Mitya en courant dans la salle de danse. Grushenka n'y était plus. Dans la chambre bleue, Kalganov sommeillait sur le canapé. Mitya regarda derrière les rideaux. Assise sur une malle, la tête penchée sur le lit, elle pleurait à chaudes larmes en s'efforçant d'étouffer ses sanglots. Elle fit signe à Mitya d'approcher et lui prit la main.
« Mitya, Mitya, je l'aimais. Je n'ai pas cessé de l'aimer durant 5 ans. Était-ce lui ou ma rancune ? C'était lui, oh, c'était lui. J'ai menti en disant le contraire. Mitya, j'avais 17 ans alors. Il était si tendre, si gai, il me chantait des chansons. Ou bien était-ce moi, sotte gamine, qui le voyais ainsi ? Maintenant, ce n'est plus du tout le même. Sa figure a changé, je ne le reconnaissais pas. En venant ici, je songeais tout le temps. Comment vais-je l'aborder? Que lui dirai-je? Quel regard échangerons-nous? Mon âme défaillait, et ce fut comme si je recevais un baquet d'eau sale. On aurait dit un maître d'école qui fait des embarras, si bien que je demeurais stupide. Je crus d'abord que la présence de son long camarade le gênait. Je songeais en les regardant. Pourquoi ne trouvais-je rien à lui dire? Sais-tu, c'est sa femme qui l'a gâté, celle pour laquelle il m'a lâché. Elle l'a changé du tout au tout. Mitya, quelle honte! Oh, que j'ai honte, Mitya! Honte pour toute ma vie! Maudites soient ces 5 années!
Elle fondit de nouveau en larmes, sans lâcher la main de Mitya.
Mitya, mon chéri, ne t'en va pas, je veux te dire un mot,
murmura-t-elle en relevant la tête.
Écoute, dis-moi qui j'aime. J'aime quelqu'un ici. Qui est-ce?
Un sourire brilla sur son visage gonflé de pleurs.
« À son entrée, mon cœur a défailli. Sotte, voici celui que tu aimes, me dit mon cœur. Tu parus et tout s'illumina. De qui a-t-il peur, pensais-je? Car tu avais peur, tu ne pouvais pas parler. Ce n'est pas d'eux qu'il a peur. Est-ce qu'un homme peut l'effrayer? C'est de moi seul. » Car Fénia t'a raconté, Nigo, ce que j'avais crié à Alyosha par la fenêtre. J'ai aimé Mitya durant 1 heure et je pars aimer un autre. Mitya, comment ai-je pu penser que j'en aimerais un autre après toi? Me pardonnes-tu, Mitya? M'aimes-tu? M'aimes-tu?
Elle se leva, lui mit ses mains aux épaules. Muet de bonheur, il contempla ses yeux, son sourire. Tout à coup, il la prit dans ses bras.
Tu me pardonnes de t'avoir fait souffrir? C'est par méchanceté que je vous torturais tous. C'est par méchanceté que j'ai affolé le vieux. Te rappelles-tu le verre que tu as cassé chez moi? Je m'en suis souvenu. J'en ai fait autant aujourd'hui en buvant à mon cœur vil. Mitya, pourquoi ne m'embrasses-tu pas? Après un baiser, tu me regardes, tu m'écoutes. À quoi bon? Embrasse-moi plus fort, comme ça. Il ne faut pas aimer à moitié. Je serai maintenant ton esclave pour la vie. Il est doux d'être esclave. Embrasse-moi, fais-moi souffrir, fais de moi ce qu'il te plaira. Oh, il faut me faire souffrir. Arrête, attends, après, pas comme ça.
Et elle le repoussa tout à coup.
Va-t'en, Mitya, je vais boire, je veux m'enivrer, je danserai ivre, je le veux, je le veux. »
Elle se dégagea et sortit. Mitya la suivit en chancelant.
« Quoi qu'il arrive, n'importe, je donnerai le monde entier pour cet instant, » pensait-il.
Krushenka but d'un trait un verre de champagne qui l'étourdit. Elle s'assit dans un fauteuil en souriant de bonheur. Ses joues se colorèrent et sa vue se troubla. Son regard passionné fascinait. Kalganov lui-même en subit le charme et s'approcha d'elle.
« As-tu senti quand je t'ai embrassée tout à l'heure, pendant que tu dormais ?» murmura-t-elle.
« Je suis ivre maintenant.
Et toi, pourquoi ne bois-tu pas, Mitya ? J'ai bu, moi. »
« Je suis déjà ivre, de toi, et je veux l'être de vin. » Il but encore un verre, et à sa grande surprise, ce dernier verre le grisa tout à coup, lui qui avait supporté la boisson jusqu'alors. À partir de ce moment, tout tourna autour de lui, comme dans le délire. Il marchait, riait, parlait à tout le monde, ne se connaissait plus. Seul un sentiment ardent se manifestait en lui par moments. Il croyait avoir de la braise dans l'âme, ainsi qu'il se le rappela par la suite. Il s'approcha d'elle, la contemplait, l'écoutait. Elle devint fort loquace, appelant chacun, attirant quelques filles du cœur, qu'elle renvoyait après l'avoir embrassée, ou parfois avec un signe de croix. Elle était prête à pleurer. Le petit vieux, comme elle appelait Maximov, la divertissait fort. À chaque instant, il venait lui baiser la main, et il finit par danser de nouveau en s'accompagnant d'une vieille chanson au refrain entraînant.
« Le cochon criou, criou, la génisse me, 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 le canard coin, 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 loi, ga, 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 la poulette courait dans la chambre, tiou, riou, riou, s'en allait chantant.
« Donne-lui quelque chose, Mitya, il est pauvre. »
Ah, les pauvres, les offensés. Sais-tu quoi, Mitya ? Je veux entrer au couvent.
Sérieusement, j'y entrerai. Je me rappellerai toute ma vie ce que m'a dit Alyosha aujourd'hui.
Dansons maintenant. Demain, au couvent. Aujourd'hui, au bal. Je veux faire des folies, bonnes gens. Dieu me le pardonnera.
Si j'étais Dieu, je pardonnerais à tout le monde.
Mes chers pécheurs, je fais grâce à tous.
J'irai implorer mon pardon.
Pardonnez à une sotte, bonne gens.
Je suis une bête féroce, voilà ce que je suis.
Mais je veux prier. J'ai donné un petit oignon.
Une misérable telle que moi veut prier.
Mitya, ne les empêche pas de danser. Tout le monde est bon, sais-tu? Tout le monde. La vie est belle.
Si méchant qu'on soit, il fait bon vivre.
Nous sommes bons et mauvais tout à la fois.
Dites-moi, je vous prie, pourquoi suis-je si bonne?
Car je suis très bonne.
Ainsi divaguait Grushenka à mesure que l'ivresse la gagnait. Elle déclara qu'elle voulait danser, se leva en chancelant.
Mitya, ne me donne plus de vin, même si j'en demande. Le vin me trouble et tout tourne jusqu'au poil.
Mais je veux danser.
On va voir comme je danse bien.
C'était une intention arrêtée. Elle exhiba un mouchoir de batiste qu'elle prit par un bout pour l'agiter en dansant. Mitya s'empressa. Les filles se turent, prêtes à entonner au premier signal l'air de la danse russe. Maximov, apprenant que Krushenka voulait danser, poussa un cri de joie, sautilla devant elle en chantant.
Jambes fines, flanc rebondi, la queue en trompette.
Mais elle l'écarta d'un grand coup de mouchoir.
Chut! Que tout le monde vienne me regarder.
Mitya, appelle aussi ceux qui sont enfermés.
Pourquoi les avoir enfermés? Dis-leur que je danse, qu'ils viennent me voir.
Mitya cogna vigoureusement à la porte des Polonais. Hé,
vous autres, Podvisoki, sortez, elle va danser et vous appelle.
Lajdak,
grommela un des Polonais.
Misérable toi-même, fripouille.
« Si vous cessiez de railler la Pologne !» bougonna Kalganov, également gris.
« C'est bon, jeune homme. Ce que j'ai dit s'adresse à lui et non à la Pologne. Un misérable ne la représente pas. Tais-toi, beau gosse. Croque des bonbons. »
Quels êtres ? Pourquoi ne veulent-ils pas faire la paix ?
Murmura Grushenka qui s'avança pour danser. Le cœur retentit. Elle entr'ouvrit les lèvres, agita son mouchoir, et après avoir tangué, s'arrêta au milieu de la salle.
« Je n'ai pas la force, » murmura-t-elle d'une voix éteinte. « Excusez-moi, je ne peux pas. Pardon. »
Elle salua le cœur, fit des révérences à droite et à gauche.
« Elle a bu, la jolie madame, » dirent des voix.
« Madame a pris une cuite, » expliqua en ricanant Maximov aux filles.
« Mitya, emmène-moi, prends-moi. »
Mitya la saisit dans ses bras et alla déposer son précieux fardeau sur le lit.
« Maintenant, je m'en vais, » songea Kalganov, et quittant la salle, il referma sur lui la porte de la chambre bleue.
Mais la fête n'en continua que plus bruyante. Grushenka étant couchée, Mitya colla ses lèvres aux siennes.
« Laisse-moi, » implora-t-elle, « ne me touche pas avant que je sois à toi. J'ai dit que je serais tienne. Épargne-moi. Près de lui, c'est impossible. Cela me ferait horreur. »
J'obéis. Pas même en pensée. Je te respecte.
Oui, ici, cela me répugne.
Sans relâcher son étreinte, il s'agenouilla près du lit.
Bien que tu sois sauvage, je sais que tu es noble. Il faut que nous vivions honnêtement désormais. Soyons honnêtes et bons. Ne ressemblons pas aux bêtes. Emmène-moi bien loin, tu entends ? Je ne veux pas rester ici. Je veux aller loin, loin. « Oui, oui, » dit Mitya en l'étreignant, « je t'emmènerai, nous partirons. Oh, je donnerai toute ma vie pour une année avec toi, afin de savoir ce qui en est de ce sang. »«
Quel sang ?»«
Rien, » fit Mitya en grinçant des dents. « Groucha, tu veux que nous vivions honnêtement, et je suis un voleur. J'ai volé 4K. Oh, honte, oh, honte !»«
4K ? Cette demoiselle ?»
« Non, tu lui as rien pris. Rembourse-la, prends mon argent. »«
Pourquoi cries-tu ? Tout ce qui est à moi est à toi. Qu'importe l'argent ? Nous le gaspillons sans pouvoir nous en empêcher. Nous irons plutôt labourer la terre. Il faut travailler, entends-tu ? Alyosha l'a ordonné. Je ne serai pas ta maîtresse, mais ta femme, ton esclave. Je travaillerai pour toi. Nous irons saluer la demoiselle, lui demander pardon et nous partirons. Si elle refuse, tant pis. Rends-lui son argent et aime-moi. Oublie-la. Si tu l'aimes encore, je t'étranglerai. Je lui crèverai les yeux avec une aiguille.
C'est toi que j'aime. Toi seule. Je t'aimerai en Sibérie.
Pourquoi en Sibérie ?
Soit en Sibérie, si tu veux. Qu'importe. Nous travaillerons.
Il y a de la neige. J'aime voyager sur la neige. J'aime les tintements de la clochette. Entends-tu ? En voilà une qui tinte.
Où est-ce ?
Des voyageurs qui passent. Elle s'est tue.
Elle ferma les yeux et parut s'endormir. Une clochette, en effet, avait tinté dans le lointain.
Mitya pencha la tête sur la poitrine de Grushenka. Il ne remarquait pas que le tintement avait cessé et qu'aux chansons et aux chahuts avait succédé dans la maison un silence de mort.
Grushenka ouvrit les yeux. « Qu'y a-t-il ? J'ai dormi ?
Ah oui, la clochette. J'ai rêvé que je voyageais sur la neige. La clochette tintait et je me suis assoupie. Nous allions tous les deux loin, loin. Je t'embrassais, je me pressais contre toi. J'avais froid et la neige étincelait. Tu sais, au clair de lune, comme elle étincelle. Je me croyais ailleurs que sur la terre. Je me réveille avec mon bien-aimé près de moi, comme c'est bon.
Près de toi, murmura Mitya en couvrant de baisers la poitrine et les mains de son ami.
Soudain, il lui sembla qu'elle regardait droit devant elle, par-dessus sa tête, d'un regard étrangement fixe. La surprise, presque l'effroi, se peignit sur sa figure.
Mitya, qui est-ce qui nous regarde ?
Chuchota-t-elle. Mitya se retourna et vit quelqu'un qui avait écarté les rideaux et les examinait. Il se leva et s'avança vivement vers l'indiscret.
« Venez ici, je vous prie !»
fit une voix décidée.
Mitya sortit de derrière les rideaux et s'arrêta, en voyant la chambre pleine de nouveaux personnages. Il sentit un frisson lui courir dans le dos, car il les avait tous reconnus. Ce vieillard de haute taille, en par-dessus, avec une cocarde à casquette d'uniforme, c'est l'ispravnik Mikhaïl Makarovitch. Ce petit maître, poitrinaire, aux bottes irréprochables, c'est le substitut. Il a un chronomètre de 400 roubles, il me l'a montré. Ce petit jeune homme à lunettes, Mitya a oublié son nom, mais il le connaît, il l'a vu. C'est le juge d'instruction, frais et moulu de l'école de droit. Celui-ci, c'est le Stanovoy, Mavriki Mavrikievitch, une de ses connaissances. Et ceux-là, avec leurs plaques de métal, que font-ils ici? Et puis deux manants, au fond, près de la porte, Kalganov et Trifon Borisitch.
Messieurs, qu'y a-t-il, messieurs?
Murmura d'abord Mitya pour reprendre aussitôt d'une voix forte.
Je comprends.
Le jeune homme aux lunettes s'approcha de lui et déclara d'un air important, mais avec un peu de hâte.
Nous avons deux mots à vous dire. Veuillez venir ici, près du canapé.
Le vieillard, s'écria Mitya exalté. Le vieillard sanglant. Je comprends. Et il se laissa tomber sur un siège.
Tu comprends? Tu as compris? Parricide, monstre. Le sang de ton vieux père crie contre toi.
Hurla tout à coup le vieil ispravnik en s'approchant de Mitya. Il était hors de lui, rouge, tremblant de colère.
Mais c'est impossible, s'exclama le petit jeune homme.
Mikhaïl Makarovitch, voyons, je n'aurais jamais attendu pareille chose de vous.
C'est du délire, messieurs, du délire, reprit l'ispravnik. Regardez-les donc. La nuit, ivre avec une fille de joie, souillée du sang de son père. C'est du délire.
Je vous prie instamment, mon cher Mikhaïl Makarovitch, de modérer vos sentiments, bredouilla le substitut. Sinon, je serai obligé de prendre... Le petit juge d'instruction l'interrompit, proféra d'un ton ferme et grave.
« Monsieur le lieutenant en retraite Karamazov, je dois vous prévenir que vous êtes accusé d'avoir tué votre père, Fyodor Pavlovitch, qui a été assassiné cette nuit. »
Il ajouta quelque chose, le substitut également, mais Mitya écoutait sans comprendre. Il les regardait d'un air hagard.